un grand merci à vous quatre pour ce grand voyage en 3 heures du Moyen-Âge au 19e siècle par l'intermédiaire des lettres, de la correspondance, qui personnellement m'a toujours fascinée. Et donc j'adore travailler dans les projets de correspondance. Je travaille pour Montesquieu, je travaille aussi sur la correspondance de Marc-Michel Rey. Donc j'espère pouvoir continuer dans cette thématique. Donc c'est à vous, levez la main et je vous passe le micro. Pierre-Yves va faire office d'hôtesse micro.
Merci beaucoup. J'ai une question de Béotienne. J'ai vu dans les différentes interfaces que parfois où il y avait des niveaux d'affichage. Hein, est-ce qu'il y a des choses dans vos différents projets et sites que vous avez décidé de garder pour vous et quels sont en fait, les accès utilisateurs différents que vous avez donnés? Merci.
Je peux peut-être commencer à répondre, puisque sa nature, la nature collective hein, évolutive d'Aposcripta, de ce corpus unifié des lettres pontificales, implique qu'il y ait effectivement différents niveaux d'accès. La plateforme que l'on utilise, Telma, donc traitement électronique des manuscrits du Moyen-Âge, qui est hébergée par l'IRHT et abrite une série de bases de données, pas seulement la nôtre, permet plusieurs degrés d'accès. On peut être rédacteur, on peut être simple invité, rédacteur, rédacteur en chef, et selon le statut que l'on a, on peut modifier les champs ou en créer des notices éventuellement sans les valider ou avec la capacité de les valider. Il y a un code couleur et la capacité de valider définitivement, enfin c'est jamais définitif d'ailleurs parce que c'est toujours évolutif, c'est toujours modifiable, évidemment est réservée à 2 ou 3 ingénieurs qui sont de très bons analystes en sources latines. Mais c'est effectivement une question importante. Sachant que, a priori, on a fait le choix pour l'instant de ne rien laisser secret, inaccessible. Et étant convenu que les informations qui sont données, parfois doivent être vérifiées, hein, et on donne d'ailleurs des hyperliens qui permettent d'aller voir les images des manuscrits, d'aller voir les différentes éditions au fil du temps, on a fait le choix d'indiquer au lecteur, lorsque le contenu du champ est en orange, que ça attend validation. C'est vraiment un travail de recherche. Si c'est en noir, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de chances, mais c'est pas non plus, c'est un instrument de recherche, hein, impossible, il y a beaucoup moins de chances que le texte édité soit fautif ou mérite une vérification, ou que la donnée bibliographique, la pagination soit approximative. Si c'est en orange, on le livre quand même, parce que ça peut quand même être utile, même si ça n'a pas été vérifié.
Pour Montesquieu, tout est ouvert. Par contre, le remplissage, évidemment, c'est uniquement les chercheurs. Enfin, bon, j'avais essayé de recruter des stagiaires au niveau master pour faire les résumés. L'expérience n'a pas été concluante. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'accès en lecture, c'est entièrement accessible.
Oui, nous, la base de données Humanum n'est pas accessible juste uniquement aux membres de l'équipe. Et c'est il n'y a que moi qui peux éliminer la fonction dilute record. C'est juste moi. Parce que, sinon, après, on ne peut pas aller venir dans l'arrière. Par contre, nous n'avons pas la main sous Emlo. Je voulais juste ajouter que EMLO était parti comme base collaborative, donc ouverte, mais ils ont fermé l'accès. Maintenant, l'expérience leur a appris à ne pas, finalement, à recentraliser le travail d'édition.
Et enfin, moi, pour sur Iman, en fait, effectivement, on a différents rôles, hein. On a fait un crowdsourcing réduit vraiment à l'équipe des chercheurs, donc on ne donne pas d'accès à des personnes en dehors de l'équipe, sauf quand on en fait une demande spécifique. Ça a été notamment le cas pour les étudiants justement de master ou bien de l'école doctorale ED540 qui en fait voulaient annoter, transcrire ou traduire un petit corpus de nos lettres. Par exemple, on a eu un étudiant qui a voulu travailler sur les femmes italiennes qui écrivent à Zola. Et donc, on lui a donné l'accès à notre base, de manière à ce qu'il puisse faire les transcriptions, les traductions, compléter nos métadonnées sur ce corpus spécifique. Après, effectivement, on rend tout public, sachant que la correspondance passive, on est censé avoir les droits des ayants droit, notamment pour les droits moraux, en fait, ce qu'on ne fait pas, parce qu'effectivement, on ne va pas chercher les ayants droit de la petite fille en Australie, mais on se réserve bien sûr le droit, la possibilité d'enlever une lettre si quelqu'un nous en fait la demande, ce qui est quand même beaucoup plus simple en numérique qu'en papier. Et pour l'édition de la correspondance active, pour l'instant, effectivement, l'idée, c'est bien sûr de rendre cette correspondance publique, mais nous sommes en train de négocier les droits avec les éditeurs de la version papier. Ce qui veut dire que pour l'instant, tant qu'on n'a pas ces droits, eh bien, ça reste uniquement consultable en ayant un compte privé sur Iman, en fait. Voilà.
Si je peux poser une question, faire une remarque à Maria Pia. Dans votre typologie, vous présentez d'abord en gros, Google Books, etc. Pour moi, ce n'est pas une édition numérique, c'est une édition en ligne. Voilà, c'est
oui, oui, oui,
en ligne.
Tout à fait.
Mais
oui.
Votre cinquième, si je me souviens bien, c'est, vous dites, l'édition des images. Pour moi, ce n'est pas une édition. C'est la mise en ligne d'images. D'abord, j'ai regardé justement avec l'adresse que vous aviez donnée sur le peintre Fabre. En plus, les métadonnées sont extrêmement réduites. Ils n'ont pas forcé. Hein. Alors, en même temps, il vaut mieux souvent que les bibliothèques ne forcent pas, parce que je pense que les métadonnées, c'est aussi grandement une affaire de chercheurs. Par exemple, à Bordeaux, au bout d'un moment, j'en ai eu marre d'envoyer des corrections où ils ont mis vraiment beaucoup de choses en ligne. C'est un très, très beau travail, avec des métadonnées très développées, très souvent fausses. Et par exemple, je me rappelle, Nathalie, me disant, attention, là, ce que tu dis, ça ne correspond pas à ce qu'il y a sur le site de Bordeaux, l'image. Alors, au bout d'un moment, le conservateur en a eu marre de recevoir des corrections, et moi, j'en ai eu marre de lui envoyer. Il m'a dit, on ne pourrait pas faire autrement, on ne pourrait pas aspirer toutes vos données, ça serait plus simple. J'ai dit, effectivement, c'est une très bonne idée. Vous reprenez nos données, ça vous évitera, en gros, d'écrire des bêtises. Nous, ça valorise notre travail parce que c'est un établissement public et je pense que tout ce qui... Enfin, on tire dans le même sens, en quelque sorte. Et donc, et d'ailleurs, quand vous êtes venu à Bordeaux présenter la correspondance, on a eu une réunion de travail pour procéder à cette utilisation des données. Mais à mon avis, on ne peut pas parler d'édition quand c'est un... simplement donc quelqu'un qui propose des images, parce que le travail d'éditeur, on l'a bien vu, il est colossal, et on peut pas dire que quelqu'un qui met en ligne des images, de même que on a des collègues qui mettent des PDF et qui disent j'ai fait une édition, t'as mis un PDF en ligne, quoi, c'est pas oui, forcément une véritable édition.
Non, non, tout à fait, c'est pas une édition. Peut-être j'aurais dû utiliser les mots de publication. Voilà.
Oui, publication, voilà.
Après, parfois, certains chercheurs seraient bien contents qu'on mette tout de suite le PDF des 5000 lettres de Zola, parce que ce sera plus rapide d'accès pour eux que le temps qu'on met, nous, à faire cette édition numérique. Donc, il y a aussi cette question-là, en fait, effectivement, dans l'édition numérique, de la question des forces que l'on a, du temps que cela prend pour faire une véritable édition.
Mettre en ligne un PDF, c'est un truc qu'on a bricolé dans son coin, sans les exigences qui sont les vôtres dans votre équipe d'édition. C'est ça, le problème. C'est aussi tout ce qui est en amont.
Bon, on a bien compris, je crois que vous, tous les quatre, vous avez soulevé la difficulté des financements pour pouvoir travailler correctement. En dehors du financement, quels sont les autres grands obstacles que vous devez surmonter? Alors, est-ce que c'est le travail collaboratif? Est-ce que c'est trouver justement des collaborateurs ou des collaboratrices suffisamment formés pour pouvoir travailler avec vous ou autre? Voilà, à part le financement, quels sont les autres grands obstacles que vous avez à surmonter?
Pour moi, le travail collaboratif, c'est le plus beau côté des projets, en fait. C'est toujours pouvoir travailler en équipe. Justement, dans le souci que même des membres de l'équipe qui ne sont pas férus de numérique puissent travailler mal quand même, en fait, de manière simple, donc avec des outils simples. Donc, l'outil de transcription sur Imane est très intuitif. Pour d'autres projets, on a travaillé sur la plateforme TACT de Grenoble qui ne demande pas de compétences en XMLTUI pour encoder en XMLTUI. Donc, pour moi, le travail collaboratif, c'est vraiment la valeur ajoutée du projet. Pour moi, il me semble le plus problématique, c'est les choix techniques que l'on fait, en fait. Voilà, parce que tout à l'heure, on a parlé de Drupal. Moi, pour Archis, j'avais commencé avec Drupal et j'ai failli me jeter par la fenêtre de mon bureau parce que j'y arrivais pas, quoi, en fait. Donc, il a fallu trouver des solutions qui sont peut-être pas forcément les meilleures du moment, mais qui me permettent d'avancer dans le travail, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a, pour moi, effectivement, ce souci d'être toujours de faire les meilleurs choix technologiques, sachant qu'on va moins vite que l'évolution des technologies, je pense, en fait. Et que quand on a commencé des projets numériques de manière assez ancienne, et ben parfois, c'est plus difficile de faire évoluer des projets numériques anciens plutôt que de repartir de zéro, quoi, en fait. Voilà.
Moi, je ne vous réponds pas, parce que sinon, c'est la gelomiade Mais disons que en ce qui nous concerne, la chose la plus difficile a été le fait qu'il n'y avait pas un laboratoire dédié. Et donc les personnels bricolaient. Ils travaillaient de manière soit bénévole, soit on était toujours dans les... Oui, on ne peut pas se lancer dans ce genre de projet si on n'a pas toute une structure technique dédié et ce n'est pas fluctuant, 6 mois, oui, mais après il faut que je parte dans un autre truc, les ingénieurs notamment, mais les jeunes gens et tout. Et puis les projets collaboratifs, c'est infernal. C'est-à-dire, désolé les étudiants, mais ça a été une expérience assez tragique.
Mais je vais juste aussi rajouter par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que nous, on a un pôle humanité numérique plutôt bien développé à l'IRIM, mais je vous rassure, nous bricolons aussi. Nous bricolons.
Oui, je voudrais dire, enfin, moi, je suis la seule qui n'ait pas parlé d'argent parce que nous avons ce formidable support de l'IRIM, à la fois pour l'édition imprimée, puisque Montesquieu, bien que je sois à la retraite, fait toujours partie des axes de recherche, etc., puisqu'on a un axe très important d'édition critique à l'intérieur de l'IRIM, de nombreux auteurs. Et effectivement, on a cette équipe surchargée aussi de tous les côtés. Mais moi, je voudrais ajouter aussi un autre point pour les difficultés que l'on a, c'est la difficulté à trouver des spécialistes extrêmement qualifiés. Et justement, je suis contente de le dire devant Jean-Sébastien, puisque nous sommes dans un projet commun. Donc, il a été fait allusion à sa spécialité de codicologue. Et voilà, nous avons... Claire Bustaré, qui était anciennement à l'ITEM, a beaucoup développé cela. Elle a travaillé sur Montesquieu. J'ai beaucoup travaillé avec elle et beaucoup utilisé ses recherches sur l'analyse des papiers, des lots de papiers qui permettent de dater qui permettent de dater les différentes œuvres, etc., ou d'apporter des éléments supplémentaires. Et donc, nous sommes ensemble dans un projet ANR qui a été déposé pour que des spécialistes de codicologie soient formés auprès de Jean-Sébastien, etc., pour travailler aussi sur ces papiers du XVIIIe siècle. Donc, c'est aussi des codicologues, enfin des gens qui sont spécialistes de faire comme toi l'analyse des papiers. Combien il y en a en France? Pas beaucoup.
Pas beaucoup. On s'est rendu compte effectivement que c'était pas forcément.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire trois, deux, voilà. Deux ou trois en France.
Un peu plus, mais pas plus.
Enfin, les doigts d'une main. Donc, vous imaginez. Alors, c'est un travail qui rend énormément, hein, en termes d'interprétation, et on a un problème. Voilà. Il n'y a aucune difficulté pour toi?
Non, bien entendu. On est confronté au problème de l'instabilité institutionnelle, bien sûr. Hein, mais ça, bon, ça rejoint le problème, le problème des financements, au fond. Même s'il y a la question de la pérennité qui se pose. C'est pas vraiment... J'allais dire que le principal problème à côté de l'argent, c'est le temps. Mais enfin, ça revient au même, au fond, d'une certaine manière. Il y a évidemment la nécessité de former les contributeurs. Et en sens inverse, Aposcripta est un instrument de formation, c'est une sorte de chantier école qui permet, avec les étudiants de master, dès la première année, de prendre une lettre dont l'image est en ligne mais qui n'est pas encore transcrite, de la déchiffrer avec eux, pour ce qui est de la première, ensuite de leur en distribuer chacun une, de leur faire faire le devoir, de corriger avec eux, et directement d'insérer après le résultat en ligne, ce qui est une vraie satisfaction. Il y a en plus une attribution, le nom de l'éditeur est mentionné dans la notice. Et donc, finalement, au bout de quelques mois, il peut y avoir une contribution de l'apprenti-chercheur à cet instrument de travail, contribution qui va être utilisée partout, y compris par des professionnels. Donc, il y a vraiment une dimension très gratifiante au plan didactique. C'est à la fois un outil de recherche et un outil didactique. Ça m'arrive régulièrement de former de manière plus approfondie des doctorants ou des post-doctorants, à la fois d'un côté au rudiment de la diplomatique pontificale qu'il faut maîtriser, et d'autre part à l'utilisation au maniement de la base. Et donc c'est du temps à chaque fois. Évidemment, le problème du turnover se pose, puisque investir du temps pour former quelqu'un à cela qui ensuite ne va pas rester bien longtemps, pour des raisons de financement, c'est problématique.
Je rebondis justement sur les aspects didactiques. Sur Iman, on a publié la correspondance de John Antoine No, que tout le monde connaît bien évidemment, qui est le premier prix Goncourt en fait. Voilà. Une grosse partie de sa correspondance est en Corse, à Corte. Et donc on a passé une semaine avec Richard Walter à former les doctorants en fait là-bas à l'édition numérique, à partir de cette correspondance, ce qui fait que pendant 5 jours, en fait, ils ont édité cette correspondance, c'est à peu près 150 lettres, en fait. Donc ça n'avait aucun rapport avec leur sujet de thèse, mais c'était justement pour leur permettre, effectivement, de comprendre ce que c'est que l'édition numérique et de les faire travailler sur une méthodologie qui est celle d'Iman, qui est calquée sur un Omeka. Et c'était très intéressant parce qu'on s'était rendu compte que le premier jour, les doctorants étaient déjà là un peu forcés, donc pas forcément très content d'être là, surtout de faire du numérique alors qu'ils avaient un sujet de thèse qui pour lequel le numérique n'avait pas forcément beaucoup d'utilité. Et bien au bout de 2-3 jours, ils se sont pris au jeu en fait de l'édition numérique. On ne pouvait plus les arrêter. Et surtout, ils ont compris aussi que ces outils-là pouvaient leur servir pour leur thèse en fait. Voilà, que simplement d'avoir une bibliothèque Omeka pour classer ces documents, pour pouvoir les montrer à leur directeur de thèse ou bien au jury de thèse avant la soutenance, ça pouvait être intéressant. Que avoir un Zotero et que le Zotero correspond avec Omeka, c'est pas mal pour sa bibliographie de thèse. Voilà, donc finalement, ça a servi aussi à ça. En fait, une petite édition de correspondance fait qu'à la fin, on a cette édition qui est bien faite, bien sûr encadrée par des spécialistes de l'écrivain en question, bien sûr, mais que ça avait été aussi un outil didactique vraiment très, très formateur. Quoi.
Les masterants ici présents donc pourront se dire que d'ici quelques années, ils auraient des stages à Corte ou ailleurs. Pourquoi pas?
Je pensais justement, vous pouvez proposer à l'école interne de PSL cette
Bonsoir. Et l'école alterne PSL, vous pourriez proposer des séances de formation là-dessus vis-à-vis de, en direction des étudiants de PSL, oui. Des doctorants.
On a commencé un peu à le faire avec Léa, en fait. On a déjà un peu commencé. Enfin, on a testé la semaine dernière une journée de formation. Alors pas uniquement à l'édition numérique, en fait, mais aux outils numériques pour la rédaction de la thèse, en fait. Voilà, et les étudiants ont été plutôt, je pense, contents et sont repartis avec une caisse à outils qu'ils vont utiliser ou pas, un petit peu, beaucoup. Voilà, mais l'idée, en fait, c'était qu'on pourrait avoir comme idée reçue que les vieux chercheurs ne sont pas du tout numériques et que les jeunes chercheurs sont tous des geeks. Et finalement, on se rend compte que c'est un peu l'inverse, en définitive, parce que les chercheurs confirmés voient bien l'utilité du numérique par rapport à la recherche d'il y a 40 ans. Et que bah, parfois un jeune doctorant qui est en plein dans son sujet de thèse, parfois ne daignera pas mettre la main dans le cambouis du numérique, en fait. Alors que c'est aussi important de numériser ces documents. On peut bien sûr les faire numériser par une boîte privée, en fait, mais si on les numérise nous-mêmes, c'est la meilleure façon d'entrer dans le corpus, quoi, en fait. De connaître ce corpus, en définitive. Voilà. Donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est aussi important, en fait, qu'en tant que doctorant, on comprenne au moins, en tout cas, comment ça fonctionne par derrière.
Quoi, en fait. Et la matérialité
voilà.
aussi.
C'est ça, voilà, exactement. Voilà, voilà.
Ah oui. Je voulais juste ajouter que, par exemple, pour l'aspect formateur, je sais que Linda Gill, à Montpellier, par exemple, forme aussi, et suscite, je crois, beaucoup d'intérêt, parce que les étudiants ayant à se colter avec une matière voilà, qui, au début, pour laquelle ils n'ont pas beaucoup d'attrait, parce que bon marché, il ne faut pas croire qu'il va parler des noces, du mariage de Figaro à longueur de page. Hein. Il y a énormément de lettres d'affaires, de choses comme ça. Voilà, il y a quelque chose qui se crée. La question de la transcription, elle est très intéressante. Alors bon, nous, la transcription, il y a tellement peu de lettres qu'on peut les faire nous-mêmes hein, pour Montesquieu. Mais pour vous, qui avez d'énormes corpus, c'est très important ce contact avec la matérialité, avec l'aspect fragile, avec le fait que manifestement, bon, avec une orthographe qui est plus ou moins aberrante, avec et comment on interprète, est-ce que là on comprend que la phrase elle se termine là ou elle se termine quatre mots plus loin. Donc vraiment, il y a cette question du contact avec le texte ancien qui est très intéressant.
Donc je reviens à ma question, je prends ma question parce que c'était pas ma question ça tout à l'heure. C'était, je voulais réagir. D'abord, merci à tous les quatre. Vous nous avez apporté des choses, des éclairages très différents chacun. Je voulais réagir sur la question de... Le mot a été évoqué de la pérennisation. Est-ce que vous vous posez la question quand vous vous engagez dans un projet et de cette pérennisation, surtout que quand nous sommes dans cette... Bon, je sais, ce sont les instances universitaires qui sont le point d'appui, mais comme on sait, l'instabilité aussi institutionnelle, les fusions, etc. Est-ce que vous posez cette question qu'est-ce qu'on peut avoir comme réponse? Qu'est-ce qu'on peut avoir de garantie, en fait? Est-ce qu'on peut répondre à cette question?
Moi, j'apprendrai rapidement, simplement, en disant que bah, maintenant, on s'engage dans un projet numérique, on adopte les principes FAIR, F-A-I-R, voilà, donc, où la pérennité des données, en fait, elle est engagée. On rédige un plan de gestion des données, un PGD.
Voilà, c'est pas... ah.
Oui, oui, c'est ça, en fait. Donc, dans le plan de gestion des données, en fait, on explique comment nos données vont être pérennes dans le temps, en fait, même si on se fait écraser dans la rue, même si les technologies évoluent, que la technologie utilisée aujourd'hui ne sera plus valable dans 5 ans ou 10 ans. Donc, en amont du projet numérique, on rédige, en fait, toutes les données qui vont nous permettre de border cette question de la pérennité, en fait, et de faire en sorte que nos données, effectivement, soient bien pérennes. Et il y a aussi des structures, des infrastructures en France, notamment, on l'a vu, Humanum, en fait. Hein, beaucoup de sites sont hébergés sur Humanum, qui est une très grande infrastructure de recherche et qui nous permet... mais après, la pérennité, elle n'est jamais éternelle. Hein.
Vous avez maintenant ce site
Alors, je me permets une petite remarque justement sur la pérennité. Le CINES fournit un petit outil qui s'appelle Facile et qui permet de vérifier si les données qu'on utilise sont, c'est jamais pérenne de toute façon en informatique, mais ont vocation à être dans un format ouvert et dans un format qui peut être facile d'être réutilisé. C'est-à-dire que même si votre site tombe, vous aurez toujours vos données qui pourront être éventuellement relues par quelqu'un d'autre. Donc il y a le site, mais c'est surtout les données mais, donc, qu'on voit dans la gestion du plan de données. La sélection du format des données est importante. Et plus vous le prenez en amont, mieux c'est. Quoi.
Avec un identifiant pérenne pour chaque donnée, en fait, qui fait que même si le site disparaît, en fait, la donnée est conservée.
Je vous remercie. Je suis désolée. On va conclure maintenant parce que nos intervenants parisiens doivent prendre un train d'ici 3 quarts d'heure, je crois. Donc, il leur éviter de courir. Un grand merci à vous quatre. Vraiment, c'était passionnant. J'étais vraiment ravie de vous accueillir. Merci Léa, Marie-Laure, Agnès qui est déjà partie. Et puis, merci à vous tous. J'espère que vous aurez appris des tas de choses, que vous aurez envie de continuer dans le numérique, parce que vous êtes en première année, mais vous allez continuer. Et j'espère que cette rencontre numéro 1, il y aura un numéro 2 et pourquoi pas un numéro 3 à Lyon l'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous.